Et de Los Angeles à Paris où il est 9h10. Très bonne journée sur RFI. La suite, c'est avec vous, Juan Gomez.
Merci Julien Coquel-Rehem. On revient dans tout juste 30 secondes à la radio et en vidéo. Sur...
Radio G, 101.5 FM.
Chant contre chant revient à Angers. 4 jours pour vibrer avec le court-métrage, le vidéoclip et la musique de film. Projections, rencontres, expos, concerts, l'image et le son, même pulsation. Du 13 au 16 novembre, à la Maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, à Angers. Infos et billetterie sur chantcontrechant.com.
Bienvenue à toutes et à tous dans Ondes Positives, l'émission qui aborde la santé sexuelle, la prévention et la vie affective de façon positive. On vous informe sur le VIH et les IST et on vous laisse aussi la parole pour partager à l'antenne vos expériences et vos vécus. Halima et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission et nous tenions d'abord à vous remercier, n'est-ce pas Halima ?
Oui, en effet, car vous avez été nombreux et nombreuses à nous écouter il y a 15 jours et ça fait super plaisir. Donc merci également à notre invité Mehdi Pinault que nous recevions donc il y a 2 semaines et qui nous avait partagé un témoignage plein d'optimisme, plein de positivité malgré le handicap et la maladie. Et on vous invite à le réécouter en podcast sur radio-g.fr dans la rubrique de l'émission Ondes Positives.
Et maintenant faisons place au sujet de cette semaine qui peut être un petit peu délicat mais tellement important quand on parle de santé sexuelle et de prendre soin de soi. Parce que nous sommes aujourd'hui le 14 novembre et qui dit novembre dit Movember. Alors, peut-être que certains et certaines connaissent déjà. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus dans les médias depuis quelques années et peut-être même que certains ne gardent que la moustache puisque c'est un peu le symbole de ce mouvement Movember. Alors, en fait, petite présentation de ce mouvement Movember, en fait, il s'agit d'une initiative mondiale qui est née en 2003 en Australie. Et qui vise à sensibiliser le public aux problèmes de santé dits masculines, notamment le cancer de la prostate, le cancer des testicules et la santé mentale, en encourageant les hommes à faire preuve de solidarité et à prendre soin de leur bien-être.
Alors, à l'occasion du Movember, donc, qui est aussi appelé Novembre Bleu, nous allons donc parler des cancers dits masculins, de l'importance de la prévention, de connaître son corps, d'en être attentif et puis de savoir à qui on s'adresse. Alors d'abord, juste pour préciser, quand on parle de cancer dit masculin, on parle de cancer du pénis, des testicules, de la prostate. Donc on s'adresse en fait à toutes les personnes qui ont un pénis, des testicules, une prostate, peu importe que vous soyez un homme cisgenre, une personne transgenre, une personne non-binaire, une personne intersexe, vous êtes concerné. Donc voilà, on va souvent utiliser les termes masculins ou dits masculins, mais c'est parce que c'est comme ça que c'est dit au grand public, mais nous on veut vraiment que vous compreniez que ça s'adresse à toutes les personnes concernées. Et pour cela... Pour parler de tout ça, nous sommes accompagnés du docteur Pierre Kubitschek, oncologue médical à l'Institut de cancérologie de l'Ouest, qui est situé à Angers.
Bonjour Pierre, merci d'avoir accepté déjà notre invitation et de prendre de ton temps pour évoquer ce sujet. Alors j'ai une première question du coup pour toi, toute simple, c'est quoi un oncologue et de quoi tu t'occupes au quotidien? Et puis si tu peux te représenter du coup un petit peu, de savoir un petit peu ce que tu fais vraiment.
Bien sûr, bonjour à vous deux, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutez. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est évidemment capital de parler des cancers masculins en ce mois de novembre, hein, puisque on sait que les hommes prennent moins bien de leur santé de façon globale que les femmes, donc c'est hyper important de faire un focus là-dessus. Donc en effet, moi je suis oncologue à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Concrètement, c'est quoi un oncologue? C'est un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge et le diagnostic des cancers. Alors, un oncologue, ce n'est pas un chirurgien. C'est un médecin qui va prendre en charge le malade dans sa globalité atteint de cancer. Il va jouer un petit peu le rôle de chef d'orchestre dans la prise en charge des patients. Il va participer au diagnostic et puis il va organiser les traitements par chirurgie, radiothérapie, mais aussi chimiothérapie. Alors, maintenant, en 2025, hein, la chimiothérapie, c'est beaucoup de choses. C'est pas la même chimiothérapie qu'on peut voir dans les films ou les séries. Il y a plein de traitements très innovants comme l'immunothérapie, les thérapies ciblées que vous avez pu, qu'on a pu entendre de plus en plus après chaque congrès. C'est globalement ça le rôle d'un oncologue. Moi, à l'ICO, on est tous un petit peu spécialisés. Je m'occupe principalement des patients qui ont des tumeurs cérébrales ou qui ont des sarcomes, qui sont des cancers plus rares du tissu de soutien de l'organisme. Et je suis aussi référent des adolescents, jeunes adultes atteints de cancer qui sont particulièrement touchés par les cancers masculins.
Effectivement, mais ça, c'est important de rappeler effectivement le côté, parce qu'on entend peut-être un petit peu ce terme, et du coup, comme la racine est loin de cancer, même si ça s'en rapproche un peu, du coup, c'est bien de faire un petit point, et effectivement, de voir qu'il y a un médecin effectivement qui coordonne, ou qui, comme tu l'as dit, chef d'orchestre, et qui suit un petit peu le parcours des personnes aussi, du coup, qui sont concernées, c'est plutôt intéressant, et dans le milieu médical, c'est peut-être pas souvent du coup qu'il y ait une personne comme ça qui coordonne un petit peu tous les parcours de la personne.
En effet, c'est vrai que c'est un petit peu spécifique à la pathologie cancéreuse, mais parce que aussi le cancer, même s'il peut se développer à partir d'un organe, il va concerner tout l'organisme, et les traitements aussi, leur toxicité, hein, vont concerner tout l'organisme. Donc ça nécessite vraiment un médecin qui est là pour gérer du début à la fin, du début du traitement à la fin du traitement, et puis même après le cancer, la surveillance pour s'assurer que le patient reste en rémission le plus longtemps possible. C'est un métier vraiment passionnant, hein, qui évolue de tous les 3-4 mois. Il y a des nouveaux médicaments qui apparaissent. C'est vraiment passionnant, et c'est un réel honneur de prendre en charge au quotidien les malades.
Alors en fait, on est dans une émission, comme vous le savez, de santé sexuelle, donc on va aborder Movember plutôt sous l'angle de la sexualité, même si ce mouvement est bien plus global que ça. Et donc, justement, on en a un petit peu parlé déjà, Alimat a évoqué les parties du corps qui étaient déjà concernées par les cancers. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire quels cancers, donc dits masculins, sont concernés? Et du coup, qui ça peut concerner majoritairement?
Oui, bien sûr. Alors, on va commencer déjà par un message dès le début. Évidemment, la sexualité, quelle qu'elle soit, n'est en aucun cas facteur de risque de cancer. Avoir des comportements sexuels à risque non protégés peut entraîner des risques de cancer, mais la sexualité, quelle qu'elle soit, n'est jamais, au grand jamais, un facteur de risque de cancer, et ça, c'est important de le dire. Oui. Concernant la population masculine, donc voilà, le sujet, c'était les cancers des zones intimes. Donc moi, j'en ai retenu plusieurs. On peut parler de ce qu'on appelle la sphère ORL, donc les cancers qui peuvent se développer dans la cavité buccale, au niveau des amygdales, la langue, les gencives, l'intérieur des joues. Ces cancers touche beaucoup la population qui consomme de l'alcool et qui boit du tabac, puisque c'est un fort facteur de risque de faire ce cancer-là, mais pas que. Ça touche aussi les hommes plus jeunes qui sont atteints de l'HPV. On va beaucoup parler de ce virus, hein, le papillomavirus, dont la transmission est surtout finalement liée à la sexualité, puisque la transmission de l'HPV, on se transmet en s'embrassant ou en ayant des rapports sexuels. Et ce virus est pourvoyeur de cancer de cette zone-là, sans aucun rapport avec le tabac et l'alcool. Et qui touche majoritairement des jeunes concernant l'HPV. Concernant les autres organes, donc au niveau des organes génitaux externes, on peut avoir le cancer du testicule, qui est le premier cancer de l'homme jeune, qui nécessite une prise en charge rapide, mais dont la survie est excellente avec les traitements. On n'insistera jamais assez sur l'autopalpation testiculaire, hein. On conseille aux hommes d'importe quel âge, hein, de s'autopalper les testicules tous les 6 mois dans la douche pour vérifier qu'il n'y ait aucun signe alarmant.
On en parlera d'ailleurs dans la suite de l'émission après la pause. Donc du coup, restez effectivement avec nous pour avoir les petits conseils.
Tout à fait. Il y a donc les cancers du pénis en lui-même qui sont plus rares, plutôt concernés par les populations immunodéprimées et également dus à l'HPV et souvent secondaires à des condylomes. On en parlera aussi tout à l'heure. Ensuite, il peut avoir des cancers au niveau de l'anus et du canal anal, également plus fréquents chez les populations immunodéprimées et aussi en lien avec l'HPV. Et enfin, on a le cancer de la prostate qui touche des populations quand même d'hommes plus âgés, qui est le cancer le plus fréquent de la population masculine. Mais c'est important d'en parler même pour les populations jeunes, parce que quand on a des antécédents de cancer de prostate dans sa famille, il faut en parler avec son médecin traitant. Et enfin, le cancer du côlon, qui est un des cancers les plus fréquents chez les hommes comme chez les femmes, et dont l'incidence augmente chez la population de jeunes adultes. Il est donc aussi important de le mentionner aujourd'hui.
Merci. Il y a un petit tableau, du coup, effectivement. Alors, t'as beaucoup parlé du papillomavirus, du HPV. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup pour les filles, les jeunes filles, parce que il y a un vaccin. On en parle beaucoup moins pour les jeunes garçons ou les hommes.
Alors, il y a le vaccin.
Alors, le vaccin marche aussi. Ouais. Alors que finalement, on voit que tu l'as dit, ça concerne pas mal de cancers, du coup, derrière. Enfin, en tout cas, ça favorise le développement de certains cancers, du coup.
Tout à fait. Alors déjà, il faut bien le redire, en 2025, la vaccination contre l'HPV, elle est censée être obligatoire pour les petites filles, mais pour les petits garçons. Ça, c'est Agnès Buzyn, quand elle était ministre de la Santé, qui l'a rendue obligatoire pour les petites filles et pour les petits garçons. C'est une vaccination qui est essentielle. Pour vous donner un exemple, on sait qu'en Australie, ils ont vacciné toute leur population contre l'HPV et tous les cancers dus à l'HPV ont disparu. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cancer du col utérin, typiquement en Australie, puisqu'il n'y a plus d'HPV, ils ont réussi à l'éradiquer dans leur population. Donc c'est vraiment un virus, donc il est capital sur lequel il faut vraiment lutter. Évidemment, il faut vacciner ces petits garçons contre l'HPV pour les protéger eux-mêmes de développer des cancers, notamment les cancers ORL, comme je viens de l'expliquer, mais aussi pour éviter qu'ils transmettent l'HPV à des femmes ou à d'autres hommes, bien sûr. Et il faut évidemment vacciner les jeunes filles sans hésitation pour les protéger contre le cancer du col de l'utérus, mais c'est pas notre sujet ce soir. Enfin, concernant les populations qui ont des rapports homosexuels, le vaccin est préconisé jusqu'à 26 ans et on essaye de militer finalement que pour pouvoir vacciner les hommes jusqu'à des âges plus avancés, puisque les données scientifiques récentes prouvent que même se faire vacciner plus tard dans la vie, ça permet quand même de se protéger encore contre les cancers, contre l'HPV. Donc il ne faut pas hésiter de parler vaccination et pas hésiter à en parler à son médecin traitant.
Tu as parlé des hommes homosexuels, peut-être faire un petit focus sur la population LGBTQI+, et peut-être évoquer ensemble les problématiques aujourd'hui qui se posent, notamment liées au cancer dit masculin.
Tout à fait. Alors, je vais le redire, la sexualité n'est pas un facteur de risque de cancer, la sexualité homosexuelle ou toutes les autres. Ce qui est un facteur de risque de cancer, c'est les comportements non protégés et typiquement se transmettre le virus de l'HPV. Et ça concerne toutes les sexualités, bien évidemment. Concernant la population LGBTQIA+, la grande problématique actuelle, et qui n'est pas que française, qui est internationale et qu'on voit bien à chaque congrès, c'est que cette population se sent stigmatisée par le corps médical. Elle est globalement mal reçue, elle se sent incomprise et du coup elle va pas voir les docteurs. Et c'est évidemment gravissime, puisque c'est typiquement des patients qui vont présenter des symptômes, qui vont pas aller oser en parler à leur médecin traitant ou au docteur, puisqu'ils ont peur d'être stigmatisés et qu'on ne les croive pas ou qu'ils soient mal reçus. Comme exemple, ça peut être l'apparition de condylomes au niveau du pénis ou du canal anal, ou bien alors des saignements répétés au niveau de l'anus dans les suites de rapports anaux ou des ulcérations. Et ces personnes ne vont pas aller oser ou en parler à leur médecin traitant. Et ce qui entraîne la découverte de diagnostics tardifs et de maladies avancées, et donc qui grèvent le pronostic. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, et évidemment l'enjeu, ça passe par la prévention et par ce genre d'émissions, mais ça passe aussi par nous médecins, balayer devant notre porte, mieux accueillir cette population, et voilà, redire que la sexualité, ce n'est qu'une information qu'il faut évidemment le dire à son médecin, mais ce n'est pas un facteur de risque, et finalement c'est juste un détail pour chaque patient.
Alors après, il y a aussi la notion de l'information. Du coup, il y a effectivement la discrimination des personnes, la stigmatisation, mais il y a aussi le fait que peut-être que les informations passent pas jusqu'à ces personnes-là, notamment si elles sont éloignées du système de santé, du système de soins, et du coup on passe à côté de dépistage en fait. Donc
tout à fait.
Il y a pas mal de dépistage tardif.
Et on sait que la prise en charge elle est assez hétérogène, dans le sens que typiquement dans les très grandes villes comme Paris ou d'autres villes, Lyon, Bordeaux, il y a des structures de santé sexuelle pour les personnes LGBTQIA+. Il y a des centres de référents, il y a des numéros, il y a du monde formé. Donc je pense que les populations là-bas se sentent mieux prises en charge, accueillies de façon bienveillante. Malheureusement, dans la province de façon globale et voire la campagne, le réseau sanitaire est moins doté de ces espaces pour la population LGBTQIA+. Et je pense que c'est pour ça qu'elles mettent du temps à arriver voir les médecins. Donc ça, on peut que être déçu de tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à contacter les associations, à aller sur Internet. Typiquement pour la région Andevine, à nous joindre à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. On est là pour les patients, pour tout patient, et il faut vraiment pas hésiter au moindre symptôme à en parler à son médecin généraliste et à venir vers nous.
Merci Pierre du coup pour ces informations. Il y a déjà pas mal de choses.
Oui, merci. Alors voilà, il y a d'autres choses à dire. On va en parler après. Mais je te propose de faire une petite pause musicale. Alors on t'avait demandé avant l'émission de choisir une musique que tu aimes. Ou qui te représente. Est-ce que tu pourrais nous présenter la musique que tu as choisie?
Bien sûr. Alors moi, j'aime beaucoup l'artiste latine qui est Rosalía, et j'ai choisi sa nouvelle chanson qui présente son nouvel album qui s'appelle, la chanson s'appelle Bergain. J'aime beaucoup cette chanson. Il y a d'autres artistes avec elle. Je trouve qu'elle est pleine de sensualité, mais aussi de drame. Et ça me paraissait, ce thème m'a fait penser à cette chanson en tout cas.
Et bien du coup, on écoute donc Bergain, le nouveau titre de Rosalía, et on se retrouve juste après pour parler de la prévention des cancers dits masculins.
Love me. C'était donc Bargain de Rosalia. Et donc vous êtes toujours sur Radio G, sur le 101.5 FM, dans l'émission Ondes Positives, où on échange autour de la santé sexuelle et où on vous aide à prendre soin de votre corps et de votre intimité.
Et nous sommes toujours avec Pierre Kubitschek, donc oncologue à l'ICEO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers, et on aborde avec vous les cancers dits masculins, liés du coup aux zones intimes. Alors, je te propose de poursuivre sur le volet plus prévention maintenant, même si on a déjà abordé un petit peu la question, mais de rentrer un petit peu plus dans le concret. J'ai envie de dire, et du coup, comment on sait si on a un cancer? Comment on fait, et du coup, comment ça se passe derrière pour la prise en charge?
Alors, avec plaisir, je vais commencer par le cancer du testicule. C'est très Movember compatible. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce que les testicules, hein, c'est une zone très intime du corps de l'homme, et on voit encore beaucoup trop d'hommes arriver avec des cancers du testicule très avancés, des très grosses masses, parce qu'ils n'ont pas osé en parler à leur famille, ils n'ont pas osé en parler à leur médecin, et ça, il faut casser ce tabou. Le cancer du testicule, c'est pas compliqué pour le coup, hein. C'est un testicule qui devient, qui grossit, qui devient pierreux, une boule qui se met sur le testicule, douloureuse, et c'est une augmentation de volume, des douleurs qui persistent. Dans de rares cas, ça peut donner des troubles de l'érection, des problèmes à l'éjaculation, mais c'est surtout vraiment une testicule qui grossit et qui devient douloureuse. Et s'il y a un problème au testicule, il faut en parler à son médecin, à son médecin traitant, c'est capital. Et comme je leur dis, on conseille, comme l'autopalpation mammaire, on conseille aux hommes de se palper sous la douche ou pas sous la douche, hein, tous les 6 mois les testicules, pour s'assurer qu'il n'y ait rien d'anormal qui les inquiète. Il faut en parler à son médecin traitant. Concernant les autres cancers, le cancer ORL, c'est typiquement une ulcération qui va apparaître dans la bouche et puis qui va perdurer pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Hein, c'est pas un aft de 3 jours. Des douleurs, une difficulté à avaler les médicaments, un changement de voix, toute anomalie bizarre qui persiste dans le temps, il faut en parler à son médecin traitant, et notamment l'apparition de ganglions, vous savez, ces petites boules qu'on peut avoir sous les mâchoires ou au niveau du cou. Si ces ganglions, ils persistent pendant plusieurs semaines, il faut en parler à son médecin traitant. Évidemment, quand on a un cancer, il y a des symptômes généraux comme une perte de poids importante, perdre plusieurs kilos rapidement, ou se sentir très fatigué, dormir beaucoup. Ça, c'est pas normal, il faut aussi en parler à son médecin traitant. Concernant les autres cancers qu'on a évoqués ensemble, le cancer du côlon, ça donne des troubles digestifs, donc c'est surtout du transit, donc c'est-à-dire une perturbation du transit, être très constipé ou avoir beaucoup de diarrhée, avoir des symptômes inhabituels par rapport à avant, et du sang dans les selles. Pour ce qui est du cancer du pénis et du cancer du canal anal, c'est vraiment l'apparition de condylomes, hein. Donc, vous savez, les condylomes, c'est ces petites verrues qui apparaissent. Ça, c'est pas normal. Il faut parler à son médecin traitant, qui orientera vers soit un dermatologue, soit un proctologue. C'est hyper important. Et pareil, une ulcération, des saignements. Tout symptôme, hein, de la sphère intime, même chez les sujets jeunes, même chez les moins de 30 ans, ça peut être un cancer. Il faut en parler à son médecin traitant. On sait que les jeunes, hein, ils se sentent invulnérables, ils ne pensent pas avoir de cancer, mais ça existe. Et quand il y a un symptôme qui persiste, inquiétant, il faut en parler à son médecin traitant.
D'où quand même l'importance de se connaître soi-même, de connaître son anatomie, et du coup la forme normale d'un testicule, si je reprends la forme du testicule, la forme normale, et du coup la forme du coup où là on commence à s'inquiéter et à se dire, ah, il y a peut-être quelque chose de bizarre qui arrive, et du coup de consulter son médecin traitant.
Tout à fait. D'ailleurs, pour mettre les pendules à l'heure, hein, le testicule, il y en a toujours un qui est un peu plus haut que l'autre. Quand on se regarde dans la glace, c'est parfaitement normal. Il peut en avoir un petit peu plus gros que l'autre, c'est aussi parfaitement normal. Ce qui est pas normal, c'est un changement de taille, des douleurs, une boule qui apparaît et que ça persiste pendant plusieurs semaines. Ça, c'est pas normal. Et surtout quand on est jeune, il faut en parler à son médecin traitant, qui fera des examens complémentaires.
Et du coup, comme tu parles de jeunes, du coup, je crois qu'il existe des structures ou des dispositifs spécialisés pour la prise en charge, donc notamment des cancers des jeunes adultes, donc 15-25 ans. Et je crois qu'il existe donc Go Aja, je crois, j'ai vu ça sur Instagram. Est-ce que tu peux nous en parler?
Super, bah avec grand plaisir. Alors Goaja, c'est une société savante de soignants, médecins et non-médecins aussi, avec des infirmières, des psychologues et d'autres corps de métier, dont notre mission est de faire valoir les spécificités des cancers des adolescents, jeunes adultes, afin qu'ils soient pris en charge dans leur globalité, c'est-à-dire que ces jeunes, lorsqu'ils tombent malades, qu'on s'occupe aussi de leur vie intime, de leur vie sexuelle, de leur fertilité, mais aussi de leurs études et de tout ce qui peut entourer cette tranche d'âge de 15 à 25 ans, hein, qui est la transition entre l'enfance et l'adolescence et la période jeune adulte, où beaucoup de choses changent, que ce soit au niveau de son corps et que ce soit au niveau aussi de sa vie sociale et professionnelle. Et quand on a un cancer, et ben c'est évidemment l'orage, c'est la grosse tempête. Et nous, on est là pour continuer à accompagner les jeunes dans cette transition et surtout faire valoir auprès des autorités de santé à quel point il est important de prendre en charge ces jeunes spécifiquement, qui ont été un petit peu la population oubliée hein, les 50 dernières années. C'était beaucoup concentré sur la pédiatrie et les adultes, mais cette population adolescent-jeune-adulte qui était au milieu de ces deux populations, on se rend compte sur le plan purement scientifique qu'elle développe des maladies différentes, des cancers un peu différents qui répondent différemment au traitement. Donc ça nécessitait vraiment que le corps médical de façon globale se penche sur cette population-là, et c'est là-dessus que Goaja s'écrit en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc, on est désormais sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur X ou sur Instagram. Faut pas hésiter à nous suivre, à regarder nos vidéos. On fait des vidéos de prévention pour lutter aussi contre la désinformation médicale et des témoignages de jeunes malades.
On donne peut-être l'Instagram de Goaja.
Ouais, alors c'est, vous allez sur Instagram, c'est go-aja-go.
Super.
Et effectivement, il y a pas mal de vidéos, de témoignages hyper importants de jeunes qui parlent de leur vécu avec le cancer. Enfin, ça démystifie un petit peu tout ce sujet-là. Donc, c'est une super initiative. Et moi, à titre perso, je suis ravi que des médecins, du coup, prennent ça aussi à bras le corps et soient sur les réseaux aussi. Voilà, parce que c'est plutôt rare aujourd'hui. Alors, il y a toute une nouvelle génération, peut-être de médecins plutôt jeunes du coup, qui sont déjà sensibilisés à ça et qui font l'effort. Mais du coup, ouais, c'est une belle...
C'est rare en effet. En même temps, on n'a pas vraiment le choix, je pense, parce qu'une partie de la population, notamment la jeune population, qui s'informe désormais quasiment exclusivement que sur les réseaux, oui. Il y a beaucoup de désinformation médicale. Et enfin, on se voit les années passant que finalement, les autorités de santé, elles sont de plus en plus sensibles aussi à l'implication des médecins sur les réseaux, au fait d'avoir une communauté, au fait d'avoir des likes, d'avoir des gens qui regardent ce qu'on fait. Et on voit que c'est aussi, ça peut être des leviers d'action pour faire bouger les choses sur le plan institutionnel. Donc on n'est pas beaucoup, mais on n'a pas trop le choix et ça va se démocratiser. Et je pense que c'est pas incompatible et que c'est vraiment un axe qu'on doit utiliser dans les 5 à 10 prochaines années.
Ben vraiment, merci énormément pour toutes ces informations. C'était super intéressant. J'espère que ça a pu vous apporter des éclairages, des réponses à chacun et à chacune d'entre vous qui nous écoutez. Merci Pierre Kubitschek. Donc, vous êtes oncologue médical à l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers. Merci d'être venu nous rendre visite. Et on rappelle que vous pouvez nous poser vos questions en passant sur le site de radio-g.fr, rubrique de l'émission Ondes Positives. Vous pouvez aussi nous poser des questions sur notre Instagram ondp-radio-g ou par mail sur ondp.radio-g@gmail.com. Donc n'hésitez pas, vous nous posez des questions, vous nous laissez des remarques, des commentaires, des témoignages. Et vous pouvez aussi nous contacter pour venir témoigner à l'antenne.
Et on se retrouve dans 15 jours pour continuer d'échanger autour de la santé sexuelle et de la prévention. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Alima.
Merci Pierre. Merci. Merci Florian.
Merci à vous deux pour l'invitation, c'était avec plaisir.
Et prochaine émission, nous serons le vendredi 28 novembre et on parlera de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA qui aura lieu le 1er décembre. Donc rendez-vous dans 15 jours à 9h10 sur le 101.5 FM ou en podcast sur radio-g.fr. Et en attendant,
prenez soin de vous.
Prenez soin de vous.